Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est 49.3 numéro 3 en direct du Liberté, la couverture légère mais efficace de ces 46e rencontres transmusicales à Rennes pour Canal B. Vous retrouverez certains de nos invités en live, par exemple Alice avec lesquels on va commencer dans un instant. Et bien ça sera à 17h10 au Liberté, un concert à ne pas rater pour cette micro-chorale suisse. Vous allez avoir dans un instant une interview réalisée par Lucie de Canal B. On retrouvera ensuite, eh bien, la musicienne toulousaine De Laurentiis, qui après des études de musique, tout ce qu'il y a de plus classique, eh bien, a appris à utiliser des machines électroniques. Et vous la retrouverez, eh bien, en concert au Transmusical également. Ce sera au hall numéro 5 à 22h40. Et puis on terminera l'émission, non pas avec Yanis Philippakis, malheureusement, chanteur de Falls et puis initiateur du projet Yanis and the Yo, mais avec tout de même deux de ces musiciens, dont l'un joue dans Ponyhawks, dont l'autre accompagne R en tournée. Donc du beau monde sur ce plateau de 49.3 numéro 3. Nous serons avec PM à la technique, Lucie à la prise d'image et puis Romain, Audrey et David. C'est parti pour cette rencontre avec les trois musiciennes de Alice. Bonne émission.
La fête est nulle.
La fête est nulle.
Tout le monde est mal dans sa peau. Tout le monde fait tellement d'efforts pour que la fête soit nulle. Et tout le monde y arrive bien.
Sarah, André, Yvonne et Lisa Harder, bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Coucou.
Alors, je vous présente, vous formez à vous trois la micro-chorale Alice, à écouter ce samedi 7 décembre à partir de 17h10 du côté du Liberté en plein centre-ville de Rennes. Je voulais, avant d'arriver évidemment au projet Alice, vous demander ce que vous faisiez dans votre vie avant de vous lancer dans la musique. Je crois qu'il y en a certaines qui étaient plutôt engagées sur des projets liés à l'écriture, d'autres au spectacle vivant, mais déjà donc dans une démarche créative pour toutes les trois.
Alors, c'est composé de beaucoup de choses différentes, mais il y a pas mal de théâtre dans le lot. Il y a, je faisais principalement des décors de théâtre, et après, enfin maintenant j'ai une compagnie de théâtre qui s'appelle All Masters. Yvonne, je vais la laisser développer, mais elle travaille aussi pas mal avec le théâtre, et Lisa aussi.
Je travaille avec une compagnie de théâtre belge qui s'appelle Maison Ravage, et ceci depuis de nombreuses années, et puis je fais aussi des décors pour des festivals, et ça plutôt à Genève, puis des fois avec d'autres compagnies. Mais j'ai aussi, en raison de mon grand âge, eu la possibilité de jouer déjà, de faire déjà de la musique avant de le projet Alice, mais c'est quand même vraiment le projet qui me tient le plus à cœur.
Elisa.
Et moi aussi, en partie le milieu du spectacle, mais plutôt, enfin, je suis comédienne et plutôt j'ai fait du cinéma que du théâtre, mais là un peu ces dernières années plus du théâtre en tant que comédienne, et aussi de la musique avec d'autres projets toute seule ou avec des gens, mais un peu plus la musique, enfin, c'est quelque chose que j'ai un peu plus étudié, et d'autres trucs comme tenir des lieux associatifs et comme ça quoi.
Vous êtes originaire de Suisse, Genève. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour deux d'entre vous, vous connaissez déjà plutôt bien de base, puisqu'il y a une mère et sa fille dans ce projet Alice, qui a eu l'idée de former donc cette micro-chorale qui s'est dit on va chanter.
Eh bien, c'est il y a 7 ans, Sarah qui a eu une proposition pour un festival de faire une performance. Et donc, elle a proposé à Yvonne de faire ça avec elle. Et là, elles se sont dit « Ah, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et Yvonne a fait écouter à Sarah un morceau qui a été un peu par hasard enregistré, que j'avais écrit pour une amie à moi. Et elles l'ont écouté ensemble, et Sarah, elle s'est dit que c'était ça qu'elle avait envie de faire comme musique. Et du coup, on s'est mis ensemble, les trois, dans une cave à faire de la musique, quoi. On a fait notre premier concert en février, il y a 6 ans, je pense. Un truc comme ça, peut-être il y a 7 ans. Et du coup, je pense que ça fait à peu près 7 ans que ça existe. Je pense qu'on a dû s'y mettre un peu, genre 2 mois avant. Un truc comme ça.
Pour essayer de décrire un peu ce que vous faites, Alice, c'est donc une formule lo-fi qui fait appel à peu de technologie, peu d'instruments. Vous êtes deux au clavier, Yvonne, Elisa, et puis tout au chant. Je voulais vous demander si vous perceviez ça un peu comme une forme de résistance au toujours plus qu'on trouve évidemment dans l'industrie musicale? Est-ce que c'était un choix ou finalement ça partait aussi de vos contraintes à vous pour monter ce projet-là?
Je crois que c'était surtout une chance. J'ai l'impression que souvent, par exemple, dans le spectacle, on se dit « Ah, on va faire un spectacle super facile à tourner. » Et si c'est motivé par ça, en fait, ça ne marche pas tellement. Et j'ai l'impression que c'était vraiment un hasard du moment qui a fait qu'on s'est dit « Bon, ok, on doit faire ça. » Et c'était un projet très, très peu ambitieux à la base. Et du coup, on s'est dit « Bon, on prend un clavier. Lisa fait du clavier, Yvonne aussi. » Et du coup, ça s'est vraiment fait comme ça. Et après, maintenant, il y a beaucoup de groupes qui nous envient parce que c'est vrai que c'est dingue de pouvoir... là, on a juste un caddie avec un clavier. Et la plupart du temps, on joue sans amplification. Donc, c'est vraiment... Ça demande très peu de matériel, ce qui est génial. De pouvoir beaucoup tourner avec peu de choses. C'est pas comme ça dans le théâtre, souvent.
Au-delà de la légèreté matérielle, il y a aussi un goût et peut-être même une recherche de l'imperfection qu'on entend notamment sur votre dernier album, L'Oiseau Magnifique, qui est sorti en 2023. Il y a des rires, il y a des ratés qui sont gardés. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ratés, mais en tout cas, des moments où toutes les voix ne sont pas forcément ensemble et vous le gardez.
Moi, je trouve que le spectacle vivant, il a ça de merveilleux qu'on partage un moment, un vrai moment ensemble.
Je couperai au montage. Pas.
Non, ou pas. Je suis un peu émotionnelle aujourd'hui. Et je trouve que les concerts dont je me souviens qui m'ont le plus marqué, c'est des concerts avec des imperfections, avec une corde qui se casse, avec quelqu'un qui est à fond ou qui pleure ou qui... je sais pas, c'est ça qui est intéressant. Sinon, oui, on peut tout maîtriser sur un plateau, on peut tout couper après, ou on peut laisser justement les moments imparfaits.
Vous parlez de concerts, est-ce qu'il y a des inspirations musicales que vous avez en commun, ou en tout cas qui ont nourri ce projet Alice?
J'ai l'impression qu'on a aussi quand même toutes les trois des styles de musique assez différents. On a quand même un peu mais à des endroits où on se retrouve vraiment fort, et je pense mais en même temps chacune des trucs différents qu'on écoute, je pense qu'on peut se retrouver sur genre Brigitte Fontaine quand même, et Areski, ça c'est quand même un truc bon, je pense ça s'entend aussi que c'est un truc qu'on écoute dans la vie.
Musique occitane,
ouais, des chants polyphoniques, des trucs comme ça, après des trucs un peu plus bruts aussi, j'ai l'impression qu'on aime bien des trucs un peu plus punk et bruts et qui sont pas trop ce qu'on fait c'est un peu ça, mais sans avoir l'intensité de que ce soit très fort ou très brutal. Mais ça peut être très brut en étant très très doux. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, je pense. Un truc un peu, je pense que les trois, on a un peu une aspiration un peu punk aussi.
Et un amour pour la brute. Pour la brute aussi dans toutes les formes.
Ouais. Alice, 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 Alice. Alice, tu es vraiment dans mon cœur, oh oui, oh oui, oh oui. Et moi, je suis vraiment toute seule, oui, je suis toute seule, je n'ai pas d'amis. Et moi, je suis vraiment toute seule, parce que je suis trop moche, je suis trop trop moche. Alice, 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 tu es vraiment dans mon cœur, oh oui, oh oui, oh oui.
Alice, mon cœur, il est tout noir à cause de tous ces gens, à cause que je suis vraiment trop. Vraiment trop 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 moche. Oui, je suis trop moche. Et toi, t'es trop belle.
Alice, 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 tu es vraiment dans mon cœur, oh oui, oh oui, oh oui. Et moi, je suis vraiment toute seule. Oui, je suis toute seule, je n'ai pas d'amis.
parce que je suis trop moche. Je suis trop trop moche. Alice, 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 Alice.
Vous avez déjà sorti deux albums, Alice Partout, c'était en tout début d'année 2020, et puis L'Oiseau Magnifique en 2023 sur le label des disques Bongo Joe. C'est sur le premier disque qu'on trouve quelques indices sur qui est cette Alice. Il faut parler du nom. Qui est-elle ?
Alice, c'est une amie à Lisa, et puis une voisine qui a habité avec nous dans la même maison, dans le même immeuble. On vit dans une coopérative, et du coup, on connaît vraiment bien les autres personnes qui sont dans cet immeuble. Et je vais peut-être aussi en profiter pour dire que là, on vient de terminer les enregistrements d'un nouvel album qui va sortir sur Bongo Joe en juillet, qui s'appellera Les Châteaux Faibles.
Et alors, comment est-ce qu'on passe d'une personne qui vous relie ou qui a une importance pour vous, mais à choisir ce prénom comme nom de projet ?
Bah parce que c'est vraiment la première chanson qui a initié le fait de faire ce projet ensemble. C'est vraiment ça. Et après, c'est marrant parce que ça m'est venu très récemment, en fait, de me dire que c'était une chanson d'amour, d'amitié. Et je pense que ça parle très bien de ce projet. Souvent, on se rend compte très tard de pourquoi on a fait les choses. Et je pense que ça parle très bien aussi de notre rapport et de ce qui se passe entre nous, parce que c'est vraiment une grande histoire d'amitié et aussi peut-être des propositions. On aime bien cette idée qu'on peut vivre les relations autrement que seulement dans la cellule familiale, que les amitiés peuvent être des choses qui prennent autant d'importance, et souvent c'est assez peu reconnu de manière sociale. Et en réalité, c'est des choses qui nous bouleversent et qui nous habitent et qui sont très très importantes pour nous. Et notre amitié, elle est très importante, et c'est ça qui fait Alice. C'est comme c'est un quatrième être qui est...
Sur vos albums, à chaque fois, ce sont une vingtaine de titres, pour certains assez courts, et qui combinent des textes faussement enfantins et des polyphonies empruntées à la musique occitane sur fond d'expérimentation au synthé. Je me demandais comment se passe le travail de composition. Est-ce qu'il y a une méthode ou au contraire pas du tout ?
Alors, moi, j'écris pas mal de textes. J'avais pas du tout de culture musicale avant de rencontrer Lisa et Yvonne. Pas du tout de pratique de chant. Et du coup, mon truc, c'est plutôt l'écriture. Je fais aussi du dessin et des textes sous le nom de André André et dans ma compagnie de théâtre. Et du coup, moi, je suis venue plus avec ça. Mais aussi, en découvrant la chanson de cette première chanson de Lisa, je me suis dit, c'est exactement le genre de texte que j'ai envie de faire. Et il y a vraiment aussi plein de textes de Lisa qui sont où, en fait, il y a une écriture qui est très proche. Et du coup, j'amène parfois des choses, Lisa amène des choses. Et il y a aussi des impros qui se font ensemble. Et des fois, on ne sait plus qui a fait quoi. Et c'est ça qui est aussi super beau.
On sent que vos sujets d'inspiration, ils tournent autour de la vie quotidienne, de relations humaines, de fêtes nulles, de choses qui ne se passent pas comme prévu, d'amitié et d'inimitié aussi, de considérations sur les voitures à plusieurs reprises. Ces chansons que vous écrivez, est-ce que vous vous dites que c'est peut-être une façon de mettre du sens dans un monde qui est compliqué pour des gens qui ont une sensibilité, notamment une sensibilité forte ?
Ben oui. Non mais oui, c'est clair, et je pense que c'est écrire, c'est toujours un méga moyen de mettre en poésie des choses qui nous font mal, qu'on en a marre, et en même temps de dire des choses qu'on trouve belles et qu'on a besoin de dire et d'entendre et qu'on a envie que les gens ils entendent. Des trucs comme ça, je pense. Enfin, le désir de la poésie et de modifier les mots pour qu'ils deviennent de la chanson et du son. Je pense qu'il y a aussi
des choses qui nous font rire et pleurer, et puis que dont on pense que ça peut faire écho chez des gens, ça peut provoquer la même chose.
Alors là, on vous retrouve sur le Festival des Transmusicales qui, dans l'ensemble, quand même, donne à entendre des propositions qui sont assez sophistiquées, en tout cas assez amplifiées sur scène. Là, on va vous retrouver sur la scène du Liberté ce samedi en fin d'après-midi. Vous avez beaucoup joué dans la foulée du dernier album. En tout cas, j'ai l'impression qu'en Bretagne, ça doit être là ou une des premières dates. Est-ce que c'est une réflexion de s'économiser aussi sur les dates? Quel est votre rapport au concert face au public?
On a joué à Camaret et à Brest. Okay. Je ne sais pas si ça compte.
Ça compte.
On ne joue pas très souvent dans les très grandes salles, par contre. On joue beaucoup plus souvent dans chez des gens avec qui on a peut-être une proximité aussi d'univers. C'est pas qu'on veut absolument se restreindre là-dessus, mais c'est qu'on n'a pas énormément de temps en raison de nos autres travaux de théâtre qui ont souvent des agendas qui se prévoient beaucoup plus longtemps à l'avance. Donc là, on sait qu'on va faire des tournées cet été pour promouvoir la sortie du nouvel album, mais en dehors de ça, on a vraiment seulement très ponctuellement le temps de faire des concerts.
Mais je pense que c'est aussi lié au fait que souvent, quand c'est loin, du coup on a besoin d'avoir plusieurs dates, du coup d'avoir du temps pour aller loin, faire plusieurs dates, parce que faire juste un aller-retour c'est épuisant, et je pense qu'on n'a pas envie de faire des grands allers-retours. On trouve plus chouette d'aller vraiment dans un endroit et de pouvoir faire un tour de l'endroit. Je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles on a peut-être moins venu jouer en Bretagne, et qu'il y a plein de gens ou des fois qui nous ont proposé et on disait en fait c'est compliqué pour nous de faire un aller-retour, il faut qu'on ait le temps de... d'être là, quoi.
Et comment vous avez vécu l'expérience de chanter sur scène depuis la sortie de l'album en 2023?
Ben, bizarrement, assez bien, quoi.
Pourquoi bizarrement?
Non, mais parce que moi, en fait, à la base, j'avais eu l'idée de faire cette performance pour un truc assez bizarre, c'est que j'avais besoin de faire un truc qui me faisait peur, en fait. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc qui me fait vraiment flipper. Et du coup, je me suis dit, faire des choses scéniques, ça me fait très peur. Donc, je m'étais dit, je vais faire une perfo. Et finalement, assez vite, je me suis habituée. Et j'ai l'impression qu'on est dans un projet à trois. En fait, on est dans un rapport qui est quand même assez agréable. Et je pense aussi que notre décision de pouvoir se tromper, de pouvoir faire des erreurs, être nous-mêmes, en fait, ça fait que... Il n'y a pas cette pression d'atteindre une virtuosité ou une perfection.
Et donc, il y a des enfants parmi le fan club d'Alice?
Ouais, pas mal. Ouais, y a des gens qui écoutent Alice en famille, pas mal. Mais c'est vrai que ça nous est arrivé de signer des autographes, et notamment à des enfants qui arrivaient avec leur vinyle. Et c'est vraiment trop touchant, un enfant qui vient...
Ou des parents qui nous disent « Vous pouvez sortir un nouveau disque, je n'en peux plus de ce disque qui tourne en boucle dans la chambre des enfants. »
Et donc il arrive le nouveau disque l'été prochain. Comment il se situe par rapport au précédent? Ça va y ressembler
Il est encore mieux, quoi. Franchement, ce sera notre meilleur disque, autant le dire.
Jusqu'à celui d'après, en tout cas.
Oui, après, le quatrième sera encore mieux.
Nous marchons sur des œufs de caille que nous écrasons, mais quand même nous marchons. Nous marchons sur le sol mouillé, nos pieds sont cassés, nous marchons. Nous marchons tout droit vers n'importe où et contre tout. Nous marchons. Nous marchons, on ne mange rien, on n'a pas faim. Nous marchons. Nous marchons, ça fait un peu mal, c'est normal. Nous marchons. Nous marchons, c'est hyper dur, mais nous sommes sûrs, alors nous marchons. Nous marchons, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus fragiles, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien,
ça change tout, nous marchons. Marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons.
Elles inventent le folklore du futur, hein, je pense, les Alice qu'on entendait à l'instant. Vous les retrouvez, et ne ratez pas ça, c'est sûr, tout à l'heure à 17h au Liberté, pour un concert qui sera forcément très émouvant, et où vous retrouverez peut-être Lucie de Canal B qui nous a permis cette rencontre avec Alice. Nous poursuivons cette émission 49.3 numéro 3, toujours en direct du Liberté, avec dans un instant De Laurentiis, soit la musicienne Cécile Léoger. On écoute un titre tout frais, puisque Romain, qui va réaliser l'interview dans un instant, Romain de Purple Rain sur Canal B, a eu l'excellente idée de me suggérer ce morceau sorti tout juste hier. Quelle bonne idée, évidemment. On écoute donc Supermassive Red en live session par De Laurentiis.
merci de Laurentis d'avoir accepté l'invitation de Canal B pour cette émission 49.3 numéro 3. Donc, tu nous confirmes que c'était la live session qu'on a entendue avec quelques différences par rapport au morceau studio.
Oui, c'est la live session, donc effectivement il y a de la voix. La voix n'est pas sur la version album. Et il y a aussi des instruments en live que je joue. C'est comme ça que j'interpréterai ce soir.
Ce qu'on va découvrir ce soir au Hall 5 à 22h40, c'est une avant-première, c'est l'album Musicalism qui sort le mois prochain.
Oui, et le 17 janvier.
Un album un peu concept autour de la synesthésie. Donc la synesthésie, c'est le lien entre la musique et la couleur, c'est ça. Est-ce que tout le monde est plus ou moins concerné par la synesthésie?
Alors apparemment, la synesthésie, c'est un trouble neurologique. Donc le fait d'associer des sens qui n'ont normalement pas de lien. Donc là, c'est les sons, donc l'ouïe et les couleurs, la vue. En fait, c'est plutôt, moi je le vois plutôt comme de la visualisation. C'est vraiment très intérieur, c'est un monde imaginaire. Dès que j'écoute de la musique, c'est voilà, tout un festival, un court-métrage qui commence avec voilà, des couleurs, des formes, des personnages, des histoires. Et c'est instantané, en fait, dès que j'écoute de la musique. Et donc j'ai découvert ce mouvement pictural des années 30 qui s'appelle le musicalisme. Des Parisiens qui reproduisaient sur leur toile les sons. Donc ça faisait des choses très très graphiques, un peu dans la même période que Kandinsky. Il y avait la symphonie du jaune, la symphonie du vert, et j'ai découvert ce mouvement et je me suis dit, en fait je suis synesthète et c'est le chemin inverse que je fais depuis des années avec mes palettes que je vois, c'est mes instruments que je vois comme des... Enfin, c'est des palettes lumineuses sur lesquelles je peins en fait la musique et sur lesquelles j'organise mes sons par couleur. Des sons qui vont être plus boisés, d'autres plus aquatiques, d'autres plus aériens.
C'est pas seulement la couleur, il y a des sensations, il y a peut-être quand tu parles d'aquatique, voilà, boisé.
Ouais, il y a des sensations, il y a des émotions et donc évidemment des gammes d'instruments aussi et parfois des tonalités plus majeures, plus mineures.
Ça donne des titres du coup comme Supermassive Red, Unbelievable Green, etc. Tout l'album va être décliné comme ça, un titre, une couleur ou...
Oui, en fait, je l'ai pensé l'album comme une bande originale de film où les couleurs sont les personnages. Donc tout ça s'inscrit dans un tableau de correspondance où on explique chaque couleur, pourquoi elle est liée à tel instrument, à telle émotion. Et donc l'album voilà, va visiter chaque état, chaque couleur. En commençant par le blanc, le white opening,
okay,
qui est donc la toile blanche de l'artiste, du créateur, où tout est à faire. Et les premiers sons qu'on va découvrir dans l'album, ce sont des sons tirés de l'atelier du peintre. Donc c'est un travail électro-acoustique que j'ai fait avec Hervé Desjardins de Radio France, avec qui j'ai collaboré sur l'album. Et voilà, moi je voulais vraiment depuis des années faire de la musique électro-acoustique et travailler avec un membre de Radio France, là où cette musique a été créée. C'était vraiment le partenariat idéal. Et donc ensemble, on est allé acheter les éléments de l'atelier du peintre, les brosses, les pinceaux, les toiles, les bombes, les pots de peinture. Et tout ça, on l'a enregistré. Et il y a ce premier morceau, White Opening, où on recrée l'univers sonore du peintre. Et progressivement, on va vers de la musique électronique.
Donc tu es plutôt bien entouré, j'ai l'impression, parce que là tu parlais d'Hervé Desjardins, mais tu travailles aussi avec l'IRCAM, l'Institut de Recherche et de Coordination Acoustique, c'est ça, hein?
C'est ça, bravo.
qui te permettent d'étoffer un peu ton laboratoire avec des nouveaux outils, des nouveaux instruments, des chœurs virtuels par exemple.
Ouais.
Alors explique-nous ce que c'est que les chœurs virtuels.
Alors c'est un chœur virtuel, c'est un outil qu'ils ont développé il y a quelques années. Alors moi j'avais découvert déjà, comme je suis une vraie geek et que j'utilise... déjà le logiciel Ableton Live pour composer à la maison et aussi pour la scène. Ils ont fait une collaboration il y a quelques années qui s'appelait IRCAMAX, en fait, où ils utilisaient le moteur de ce cœur de l'IRCAM via un plugin pour Ableton, Max for Live. Donc j'avais découvert ces sonorités, sauf que c'était pas un plugin qu'on pouvait utiliser en temps réel, parce qu'il y avait beaucoup de latence. Et quelques années plus tard, je suis allée dans les studios d'IRCAM et là ils m'ont montré.
Ça y est, maintenant on peut.
Voilà, leurs outils les plus aboutis en cherchant des artistes avec qui aller plus loin.
Donc, tu vas l'utiliser ça par exemple ce soir? Ok, donc on a vu quelques démos sur internet par exemple où tu, avec tes mains, en fait tu diriges le cœur. Et tu vas avoir ça ce soir?
Oui.
Ou... Ouais, on ne faut pas tout dévoiler.
On ne dit pas tout.
C'est le genre de choses voir ce soir.
Ça, ça va être, ouais, ça, ça fait partie de, bah, des instruments que j'utilise sur scène. Il y a donc les pads lumineux, mais il y a aussi les gants Mimu qui ont été développés par l'artiste anglaise qui s'appelle Imogenip. C'est elle qui a eu l'idée de ces gants. Donc c'est des gants connectés en Wi-Fi sur lesquels on assigne des effets, des sonorités, des instruments. Et j'ai décidé de les utiliser pour manipuler le cœur virtuel parce que j'aimais bien l'idée de mettre du mouvement et de la gestuelle dans le fait de, comme un chef de cœur qui dirigerait un cœur virtuel.
D'accord. Et ça, ça m'a rappelé un peu Clara Roquemore avec son Theremin qui utilisait aussi ses mains pour jouer d'un instrument. Finalement, est-ce que c'est
la première grande interprète de Theremin, la première qui a su dompter cet instrument qui est en fait. On dit qu'un des instruments les plus difficiles au niveau de l'apprentissage, c'est le violon. Et en fait, le theremin est équivalent au niveau du nombre d'années nécessaires pour maîtriser cet instrument. Oui, et elle, c'était la première.
Le moindre millimètre d'écart, ça peut te faire sonner faux. Très bien, donc on pourra voir ça ce soir. J'ai l'impression qu'il y a plein de surprises potentielles. Il y a aussi une live session qu'on peut voir sur YouTube où tu as une espèce de bague. Pour pareil changer le son. Enfin,
ça c'était avant les gants. Juste avant.
Ah ok. C'est l'ancêtre des gants.
Moi je suis geek. Dès qu'il y a un truc qui sort, je veux l'essayer. Donc avant que les gants sortent, il y avait la bague.
t'es arrivé à Rennes dès hier en fait pour une table ronde autour du concert du futur. Donc c'était pas un hasard. À quoi va ressembler le concert du futur en quelques mots?
Alors le futur c'est dans 3 jours. C'est un live 360 sons et images qu'on va présenter avec Hervé Desjardins et Radio France à la Gaîté Lyrique. Donc autour de nous, les 4 écrans de la Gaîté Lyrique, on va projeter justement les visuels de chaque titre. Donc pour chaque titre on va rentrer dans l'univers d'une couleur. Et donc un environnement qui va naître, qui a été créé par Baptiste Lefebvre. Et dans ces environnements-là, la couleur, en fait, c'est un petit peu comme le pointillisme, où c'est en s'éloignant de la toile qu'on découvre, en fait, l'image qu'elle nous propose. Et là, en fait, c'est ce fameux musicalisme donc, qui va être animé autour de nous sur les écrans et qui, comme des pixels sorting, va finir par dévoiler un environnement. Donc le vert va dévoiler une forêt, le rouge, comme on peut le voir dans la session live, un volcan. Mais après, il y a des choses un peu plus surréalistes. Le violet, c'est un océan violet. Le bleu, c'est une dune de sable bleu. Et dans cet environnement, il va y avoir des sensations comme le vertige, comme l'élévation. Et aussi le son en 360, qui est donc spatialisé en direct par Hervé, qui sera à côté de moi, au centre de la salle, et le public autour. Donc il y a vraiment cette notion de clan, de tribu, où on est ensemble avec le public et on partage cette expérience.
Ça donne envie d'aller voir ça.
Tu as cité tout à l'heure Clara Roquemore. Il y a évidemment des grandes pionnières de musique électronique, soit Delia Derbyshire ou Suzanne Ciani par exemple. Je trouve ça dingue quand même qu'elles soient aussi peu visibles malheureusement, alors que ces compositrices-là ont été toujours en pointe en fait. Est-ce que tu te vois comme une héritière de ces grandes musiciennes?
Alors moi, évidemment, ma plus grande influence c'est Laurie Anderson. C'est la première qui m'a donné envie de m'enfermer dans mon studio et d'utiliser des vocodeurs, des sampleurs et de manipuler ma voix. Je lui rends souvent hommage en fait dans mes productions. Je mets souvent des petites pointes de Laurie. Et ce qui est fou, c'est qu'effectivement, au début de l'histoire de la musique électronique, qui était vraiment quelque chose de très technique et très scientifique, c'est souvent des femmes. En France, on a eu Eliane Radigue.
Tu l'as croisée déjà? Tu as eu l'occasion de croiser sa route?
Laurie Anderson?
Non, Eliane Radigue.
Ah non.
À ce sujet, il y a un excellent documentaire, Sisters with Transistor,
oui,
qui est toujours disponible sur Arte, si on veut creuser le sujet des pionnières de la musique électronique.
Où Eliane Radigue dit qu'elle est tombée amoureuse de son ARP 2005 quand elle était jeune et qu'il ne l'a jamais quittée. Et on la voit aujourd'hui, elle a 80 ans, et on la voit encore dans son salon avec son ARP à passer des heures et des heures à chercher des sons, quoi.
Oui, à trifouiller quelques boutons pour arriver à des choses, des subtilités qui peuvent nous dépasser, nous autres, comme un des mortels. Mais...
Oui, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Et Suzanne Ciani, voilà, le niveau
déjà de compositrice que c'est et de maîtrise des instruments. À l'époque, c'était vraiment de la haute voltige, quoi, de maîtriser ses synthétiseurs, ses vocodeurs. Et elle était, voilà, elle fait partie des pionnières. Et après, les hommes sont arrivés, mais c'est vrai que les pionnières, enfin, c'est des femmes, quoi.
Ouais, elles se sont fait finalement un petit peu effacer par Pierre-Henri, par des gens comme ça. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays finalement, plus ou moins.
Alors Eliane Radic, c'était une des élèves de Pierre-Henri, elle faisait partie du laboratoire.
On revient vers l'IRCAM d'ailleurs, parce que je crois que c'est Pierre Schaeffer ou Pierre-Henri qui a fondé l'IRCAM, c'est ça?
Non, pas l'IRCAM, le GRM. D'accord. Et Radio France.
D'accord.
Ouais. L'IRCAM, c'est Boulez.
Un autre pionnier. Donc, quelques mots sur tes liens peut-être avec Rennes. Sur un de tes albums, il y a La Tour des Horizons, je pense. Je pense l'avoir reconnu sur l'album Classical Variations.
Non,
c'est pas La Tour des Horizons.
Non.
Ça y ressemble vraiment comme.
Ah ouais.
Et est-ce que tu connais les transmusicales et es-tu déjà venu aux transmusicales?
Alors je ne suis jamais venu aux transmusicales, ni en tant que public, ni évidemment en tant qu'artiste. Donc ça c'est une vraie première, mais par contre je connais les transmusicales depuis toujours parce que c'est un festival absolument mythique et qui est une étape dans la vie d'un artiste importante et rare. Donc c'est vraiment un honneur, quoi, d'être invité.
Tu le prépares comment, ce concert de ce soir?
Ben, ça fait des mois que je le prépare. C'est vraiment l'avant-première de l'album en live. Donc j'ai travaillé des versions spéciales pour le live et j'espère que les gens vont rentrer. L'idée c'est vraiment de partager ce phénomène de synesthésie, de lien avec les sons et les couleurs en direct, en live avec le public.
Avec les fameuses palettes que tu as devant toi, qui sont tournées vers le public d'ailleurs, oui. C'est pas un hasard.
C'est ça l'idée, c'est qu'en fait chaque geste, chaque son... soit visible et que le public comprenne visuellement parce que souvent les machines de producteurs de musique électronique, elles sont soit tournées vers eux ou alors c'est des boutons ou des faders qui ne sont pas lumineux ni colorés et on ne sait pas trop à quoi ça correspond, alors que là visuellement on peut tout de suite comprendre quel est le son qui émane du geste.
On se souvient tout de même quand même de la fameuse harpe laser d'un certain Jean-Michel Jarre,
évidemment.
Qui n'est pas venu au trans. Quel dommage.
En tout cas, il l'a utilisé il y a quelques semaines pour la clôture des JO. Elle était belle, en plein milieu du Stade de France.
Peut-être que cet instrument que tu vas utiliser sera aussi réputé par la suite.
Mais
il n'y a que toi qui l'utilise, cet instrument? Ou est-ce qu'il y a d'autres artistes?
Alors, les instruments que j'ai, avec lesquels je vais jouer ce soir, ce sont des prototypes qui vont sortir en janvier. C'est la version 2 des ERAE de Unbodmi, donc encore une fois une marque française, parce que je travaille beaucoup avec des technologies françaises. Et donc là, c'est vraiment une première, encore une fois, parce qu'ils ne sont pas sortis. Et en fait, ils sont entourés, ils sont encastrés finalement dans un autre, dans un écrin qui est lui développé par Hacking Toys, qui est Xavier Garcia, qui construit des contrôleurs sur mesure pour les artistes. En fait, sur son site, on choisit ses faders, ses boutons, ses potards, et en fait, on construit son instrument. Et donc, j'ai eu envie de construire autour des pads ERAE un autre instrument, ce qui fait qu'effectivement, le résultat est quelque chose de totalement personnel et unique.
Ça fait pas mal d'années maintenant que tu fais de l'électro, en tout cas avec ce projet-là. Mais au départ, je crois que tu viens plutôt du jazz, ou peut-être du classique, un peu des deux peut-être, avec notamment ton papa Philippe, qui est un pianiste de jazz connu dans le milieu jazz en France.
Ouais.
Comment t'es passé de ce milieu-là à l'électro?
Bah, c'est vrai que Laurie Anderson m'a quand même vraiment influencé dans une époque où moi j'étais dans l'héritage familial du jazz et puis aussi de la musique classique. Mais c'était un petit peu mon univers intime, quoi, parce que chez moi j'avais mes ordinateurs, j'avais mes productions et je travaillais mes morceaux. Mais c'était quelque chose de confidentiel, quoi. J'ai mis du temps finalement à le partager.
L'interview touche à sa fin, mais merci beaucoup De Laurentiis d'avoir accepté l'invitation. On te retrouve donc ce soir au Hall 5 à 22h40 pour découvrir en avant-première cet album Musicalism.
Merci beaucoup
à vous deux. Merci pour l'invitation.
On retrouvera dans un instant nos invités suivants. effectivement, qui seront les derniers d'ailleurs de cette troisième et dernière émission. Ça passe très 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 vite, hein, évidemment, c'est 49.3, c'est la troisième du nom. Durant aux libertés, on reçoit dans un instant deux musiciens qui accompagnent Yanis Philippakis, qui ne sera pas malheureusement présent ici, le leader de Yanis and the Yo, mais on parlera quand même avec un batteur qui a la tâche assez ardue, j'imagine, d'être batteur, alors que sur le disque, c'est Tony Allen, le batteur. Ça va être un peu compliqué. On écoute Yanis and the Yo avec ce morceau Walk Through Fire et en featuring feu Tony Allen à la batterie. A tout de suite.
Après le titre Go Back qu'on avait fait avec Damon Albarn, et on s'était avec pas mal d'artistes. Et il y a eu Tellier, il y a eu Célassou, puis il y a Yanis qui est venu. Il devait en avoir plein d'autres, mais bon, il y a un changement de label, le truc s'est pas fait. Et donc Yanis est arrivé comme ça, on le connaissait pas, on l'avait jamais rencontré. Et on devait faire un morceau, puis en fait on a fait trois jams dans la journée. Et puis il a voulu revenir le lendemain matin, donc on a fait une quatrième. Et puis voilà, on a enregistré ce titre en premier, là, ce que vous venez de diffuser, Roll Through Fire, avec un super accent. Et voilà, après nous on a édité un peu quelques jours, c'était vraiment des jams, c'était un peu bordélique, mais c'était cool. Et puis quand Yanis a écouté, il a dit ah, trop bien, attends, faut qu'on le sorte, etc. Puis il y a eu le Covid, il y a plein de choses qu'on fait, que les tournées de Falls, etc. Entre temps, Yanis est venu dans notre studio enregistrer, on a fait de la prod sur l'album Everything That Saved Will Be Just Forever avec Vincent. Il y a eu la mort de Tony, etc. etc.
Oui, oui.
Et puis surtout, il y avait des histoires de label, pas très intéressantes, mais on devait. C'est quand Universal a pris les rênes, ils ont foutu ce truc à la poubelle. Et donc Yanis a décidé de reprendre. C'est pour ça que ça a pris du temps en fait.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que en fait, le concept de départ, c'était de faire un one day, one track, c'est-à-dire de faire juste un titre avec différents artistes, quoi, de faire un album donc, de Tony avec différents chanteurs. Et en fait, comme ça s'est hyper bien passé avec Tony, ça a matché à fond entre Tony et Yanis Yanis et nous. Du coup, c'était pas calculé, mais on a fini par faire autre chose et l'histoire elle est marrante. Quoi, c'est...
Alors donc les transmusicales, le festival donc que vous fréquentez pour la première fois vous deux?
Non.
Vous l'avez joué avec qui?
On a joué avec avec Philippe Huminski à 20 ans.
Et donc vous annonciez tout à l'heure, vous êtes c'est un groupe, un super projet presque, tout le monde a un CV plutôt chargé. C'est quoi l'avenir de ce projet? Est-ce que c'est juste le one shot en studio et on fait quelques concerts avec, ou est-ce que c'est un groupe qui va avoir une vie propre?
Alors c'est un peu difficile à dire parce que c'est forcément secondaire pour Yanis, pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Mais
non, on voit pas.
mais quand même, il y met beaucoup d'énergie. On a commencé à faire des nouveaux titres, donc il va y avoir des nouveaux titres. Mais c'est important que ça soit différencié de Falls. Et donc c'est plus un terrain d'expérimentation avec d'autres musiques. On a pas mal d'idées, donc je pense que c'est pas forcément une bonne idée d'en parler maintenant. Mais en tout cas, on a déjà fait des expérimentations avec des musiciens de différents styles. Yanis a même fait des voyages pour découvrir d'autres musiques, etc. Enfin, on a des choses dans les tiroirs et des projets sur le papier, en tout cas. Et voilà, maintenant, il faut arriver à combiner ça avec le planning des Falls aussi. Voilà.
Effectivement, j'ai lu en interview que Lagos Paris London, c'était un premier lancement et que c'était pas exclu de faire des choses dans le futur dont on parlera pas là.
Ouais, c'est juste que je peux pas vous dire avec certitude ce que ça va être.
Vous allez tourner quand même un peu avec Yanis and the Yo prochainement.
Ouais, ouais.
Ça va aboutir un petit peu. Alors, il n'y a pas tant de titres que ça. Comment vous faites? On s'attend à quoi ce soir? Vous allez faire deux fois les mêmes morceaux?
Ce soir, on joue 50 minutes, donc ça va. Mais effectivement, on jamme un peu sur les morceaux. Vu que c'est le concept d'ailleurs du projet initial. Donc voilà, on développe des fois des fins ou des débuts sur certaines chansons. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est... En fait, ce qui est vrai, c'est que par rapport à la suite du projet, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on se voit avec Vincent et Yanis. On s'est vu quelques fois pour composer et faire quand même d'autres morceaux. Donc, pour l'instant, on les a pas sortis, mais effectivement, a priori, il y aura une suite au projet. Quoi.
Sachant que ce projet, il avait pris naissance donc avec Tony Allen, et qui n'est plus là. Et donc, comment la suite se poursuit comme ça, quoi, sans lui?
De fait, parce que sinon on aurait sûrement fait autrement si Tony était encore là, mais de fait on va continuer à chercher soit des collaborations, soit une orientation au projet. Tony, ça aurait été le premier épisode, quoi. C'est-à-dire que là on a fait une collab avec Tony et on va faire des collabs avec d'autres gens. Et voilà. Si Tony aurait été là, je pense qu'on aurait continué avec Tony.
En fait, l'ADN du projet, c'est d'intégrer d'autres musiciens en fait à chaque fois.
Voilà, c'est d'expérimenter avec d'autres styles de musique et de
pas qu'un batteur forcément. forcément.
Voilà, ouais.
Phil Collins s'est déjà pris de toute façon.
Non, puis Vincent, c'est un formidable batteur. Et, puis,
bah, oui.
Et il était validé par Tony pour jouer ses patterns. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et il y avait lui et Cyril Atef en France. C'était ça qu'il avait dit Tony. Et voilà, enfin, on a. La connexion était bonne, mais c'est vrai, voilà, comme disait Vincent, au début, on voulait faire ce truc One Day One Track, et puis on a fini par faire l'EP avec Yanis, et on verra bien ce que ça donne. Quoi. Enfin, on fait de la musique, et puis on verra bien. On a déjà la chance d'avoir un super label. Là.
Les trans, ça représente quelque chose pour vous spécialement, même si vous y avez joué qu'il y a 20 ans, voilà. C'est un festival de musique émergente, pourtant vous émergez pas, vous, puisque vous êtes là quand même depuis très longtemps.
Bah ouais, on s'est levé.
On a trouvé le sens. Il y a vous avez des souvenirs de trans? Est-ce qu'en tant que spectateur, vous êtes allé?
Ouais, on a découvert ESG avec Vincent.
Ah ouais?
Je pense que c'est un de leurs premiers passages en France. Hein, c'était au trans, ouais, ouais. Parce que c'est. Et on a adoré. C'était une découverte incroyable. Après, moi, par rapport au trans, je jouais dans une qui s'appelle Pony Hawks. Et c'est assez marrant parce que j'ai une histoire avec ça. C'est que.
Oui, on veut savoir.
Nous, on avait joué aux Eurockéennes de Belfort. Et il y avait Jean-Louis Brossard, donc le programmateur et directeur des trans, hein, pour ne pas le citer. Et il était avec un ami dans le public. Et nous, on passe aux Eurockéennes avec Pony Hawks. Et on insulte à moitié le public, on casse tout à la fin du concert et tout ça. Et Jean-Louis dit à mon pote, il lui dit, putain, mais jamais, putain, mais quelle bande de sales parisiens, ils se prennent pour qui et tout, jamais je les programmerai, ces connards. Et tout, il nous a détestés. Et du coup, on n'a jamais fait les trans, ce qui est un peu un truc... j'en parle parce que tous les fans de Pony Hawks et tout, les gens du métier disent, mais comment ça se fait que vous n'avez pas fait les trans?
Ouais.
C'est vraiment le groupe de rock français punk et tout qui était fait pour les trans.
Et pourtant, ce comportement, j'aurais dit le contraire, il a dû flasher. Non,
bah
pas
non,
du tout,
c'est
en fait.
Entre mal alpha, ça se passe mal, tu vois.
D'accord.
Mais donc voilà, et par contre, moi j'ai joué aux trans avec Fest, c'est tout début,
Ouais.
Skip Fest, tu vois, la chanteuse.
Oui, je vois bien, ouais.
Et donc c'était cool, on avait joué dans les bars en trans, dans un.
Ah, au bar en trans, c'est un autre festival.
Ah, pardon,
attention.
La gaffe.
Ouais, c'est
pas je m'appelle
grave.
Vincent, c'est pour ça.
Oh là là, ben oui, allez, bah, on en rêvait. D'accord.
On en rêvait, du genre de blague.
C'est un festival que vous avez fréquenté, est-ce que vous avez repéré des artistes sur cette édition que vous allez suivre, aller voir peut-être même?
Mais non, moi je n'ai même pas regardé la programmation.
En fait, dès que j'ai du temps libre, moi j'essaie de dormir. Et non, j'ai un peu regardé, mais je connaissais pas grand chose. Et en fait, le truc, c'est qu'on joue super tard et on joue dans la salle où il n'y a que des DJ. Et même si j'adore la musique électronique, je ne suis pas hyper fan de DJ. Je trouve que c'est un peu comme les footballeurs. Enfin, c'est un truc.
Explique-moi le parallèle entre.
Bah, je sais pas, c'est les mecs qui font semblant comme ça. Là, enfin.
Qui font semblant. Oui, avec une clé
USB. Vincent, c'est le top de la musique électronique. Hein. Il vient de comixer le dernier Justice,
oui.
Le nouveau.
Bah oui, c'est.
Et il a un groupe et son projet s'appelle Torel. Et c'est vraiment en termes de musique électronique, c'est bon voilà quoi, c'est top niveau.
C'est pour ça que c'est un peu paradoxal, toi les DJ bof.
Non mais ça
alors,
c'est les cons.
Je suis jaloux, j'arrive pas à faire le DJ. J'arrive pas à faire le DJ. J'ai jamais capté comment ça marchait et j'ai pas cette culture musicale. Donc du coup, j'essaie de les dénigrer pour passer à côté du sujet, tu vois. Non, c'est je trouve que le monde du DJ c'est quand même un monde un peu étrange.
Bah ça dépend du.
C'est un monde de
le
c'est
monde du DJ,
du
c'est comme dire le monde de la musique, puisque c'est dans le DJing il y a plein de. Ah bah
il y a vraiment évidemment des DJ phénoménaux. Mais...
Bon, après il y a d'autres halls, vous pourrez aller vous balader, vous verrez, c'est grand, hein, les transmusicales.
Ouais, mais voilà, mais on est loin en fait.
Bah non, vous êtes au. Je vais
Expo.
Te montrer le petit plan
faire,
après,
voilà.
Tu vas voir.
Et justement, en tout cas, on pourra aller vous voir au hall 8 ce soir à minuit. Jusqu'à minuit 50.
Minuit, c'est dingue.
Ça va. Ah ouais.
Et il y aura quand même des concerts juste après vous.
Ah,
merci pour.
C'est pas des DJ?
Non, vous êtes dans le hall 8, plutôt un hall.
Vous avez que des DJ, on ne dit que des.
Et vous verrez, ce sera la surprise.
Bah, du coup, vous allez.
Il faut qu'on se renseigne, vous avez bien raison.
Ouais. Entre deux siestes, en tout cas, merci beaucoup.
Ah, merci. Hein.
On était ravis de vous recevoir et à ce soir, bon concert.
On va terminer dans quelques instants cette émission. Merci à vous deux, les deux Vincent, vous saluez Yanis et puis le reste du band tout à l'heure. On va terminer avec un petit tour de table rapide pour se dire que non, il n'y a pas que de la musique électronique au Lubit, c'est sûr, puisque moi je vous proposerais qu'on se quitte avec Mitsune, une rencontre au sommet entre le Japon, la Grèce, l'Allemagne, l'Australie. Ça, c'est très transmusical. David, qu'est-ce que toi tu nous conseilles d'aller voir dans cette dernière soirée des trans? L'avant-dernière d'ailleurs, il y a dimanche aussi.
Ben moi donc j'ai repéré donc tous nos invités du jour et puis j'irai voir les locaux de l'étape Mac & Wester qui sont quand même à voir, qui jouent dans la green à 23h.
Moi, Benefit, il y en a pas mal ce soir. Benefit, mais tard. Donc, comme je suis une vieille, ben, on me racontera. Benefit, à minuit 50, Hall 4, Internet Girl, apparemment, qu'il faut absolument voir aussi. Gallo Street, qui joue aussi un petit peu sur un autre plateau d'une autre radio qu'on ne nommera pas tout à l'heure. Donc, je pourrais aller voir. Ils sont à 1h40, Hall 8. C'est une bonne soirée encore ce soir.
Pour ma part, je vais aller faire un tour au Hall 4, voir Méline Méline. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est des Gallois, donc débrouillez-vous avec l'accent. Mais ce sera du rock plutôt psychédélique avec du lap steel, ce genre de choses, des trucs un peu vieillots, trucs que j'aime, quoi, voilà.
Ça promet une belle soirée, je pense, ouais. Où il n'y aura pas que des DJ de la musique électronique.
Mais non.
On va faire mentir nos invités de fin d'émission. Merci à vous toutes et tous
participer
à ce plateau 49.3. Vous avez entendu depuis jeudi Anne, Audrey, Romain, David, Lucie aussi. Merci pour l'interview d'Alice aujourd'hui et pour les belles photos de ce plateau qu'on faisait ici. Oui. Emma pour les traductions, PM à la technique, Quentin et Iris qui, de l'autre côté de la place,
j'irai
de
aussi.
L'autre côté de la fête foraine, envoyaient des morceaux pour vous, comme celui qu'on va écouter pour terminer. Ce seront ces musiciennes, trois musiciennes qui vont revivre une tradition japonaise, ces Mitsune. Elles jouent au même hall que nos amis de Yannis and Yo, donc vous pourrez les retrouver aussi. Je termine avec ce morceau dont j'essaye de le dire bien, Kaigarabushi.
Oui, nickel.
Ça veut dire ça. Merci à toutes, merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.
Salut.